Actualité protestante. Le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. Pour ce numéro, je vous propose de découvrir les aumôniers protestants d'hôpitaux. Ces spécialistes de l'accompagnement spirituel et de l'écoute sont formés et recrutés en lien avec la Fédération protestante de France. Mais que font-ils concrètement ? Quelle est la place et le rôle d'un aumônier dans un établissement sanitaire ou médico-social ? Nous répondrons à ces questions avec des aumôniers protestants dont certains nous ont confié des histoires marquantes d'accompagnement. Et pour commencer, je vous propose de découvrir en 4 minutes les grandes lignes de ce rôle si particulier avec Mirana Randriamananjara et son invité.
Actualité protestante, à votre écoute.
Béatrice Birmelet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la commission d'aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux. Avec vous, nous allons découvrir ce qu'est un aumônier d'hôpital. Alors, première question, quel est le rôle d'un aumônier d'hôpital ?
Alors, l'aumônier dans un hôpital est déjà une personne qui fait partie de l'offre de soins que propose l'établissement. Et dans ce cadre, il est lié à la neutralité, à la laïcité. Sa première mission est bien sûr d'accompagner la personne malade, le résident dans un établissement médico-social et d'être donc à son écoute, une présence, d'apporter une parole de consolation parce que la maladie, la souffrance peuvent entraîner un questionnement spirituel. Il est vraiment dans le respect de la personne, il l'écoute, il l'accompagne dans ses questionnements et il est aussi pour la partie plus spécifiquement d'aumônier protestant, témoin d'espérance de la foi chrétienne. Il peut dans ce cadre aussi proposer un temps de prière ou de lecture de la Bible. Ensuite, l'aumônier accompagne aussi les proches, la famille, des amis qui sont avec la personne malade, qui peuvent s'interroger. Et l'aumônier est présent auprès des professionnels, soit dans la prise en charge de la personne accompagnée, soit éventuellement pour leurs questionnements propres et des échanges avec eux. Il a donc une mission plurielle dans un établissement.
Comment est-ce que les aumôniers d'hôpitaux sont formés pour aider les patients et leurs familles ?
Alors la formation des aumôniers est très diverse et varie d'une personne à l'autre selon le contexte dans lequel il est. Il y a toujours une formation biblique et théologique et aussi une dimension d'écoute et d'accompagnement, mais il n'y a pas de chose obligatoire au préalable. Par contre, tout ça est validé par un groupe d'examen qui tient compte de l'ensemble des éléments de formation, d'habitude, d'expérience de l'aumônier pour lui donner un agrément. Il a aussi obligatoirement un DU laïcité, le plus souvent à l'université de Strasbourg, en faculté de théologie. Et ensuite, la commission propose une formation continue annuelle pour tous les aumôniers.
Quel type de soutien ou de conseils les aumôniers offrent-ils aux patients et à leurs familles ?
Alors, il s'agit effectivement d'un soutien qui est une écoute, parfois une aide au discernement quand il faut faire des choix, que la personne doit s'orienter vers un traitement ou pas. Je dirais que l'aumônier n'a pas de conseils à donner. Il est plutôt là comme un accompagnant, accompagné au sens de marcher à côté de la personne, à son rythme, là où elle va aller. Mais c'est la personne elle-même qui fera ses choix. L'aumônier, par contre, peut être aussi un conseil au niveau de la vie spirituelle, au niveau de théologique ou biblique.
Est-ce que les aumôniers d'hôpitaux sont présents pour tous les patients, peu importe leur religion ou leur croyance ?
Alors la priorité de l'aumônier va bien sûr aux personnes protestantes qui l'appellent, mais il peut y avoir une visite pour toute personne qui le souhaite, parfois des personnes très seules dans les services qui n'ont pas de visite. Ça peut être une visite amicale, toujours dans le respect de la laïcité, de la neutralité, surtout ne pas faire de prosélytisme. Et ensuite, bien sûr, pour les patients qui le demandent, un accompagnement spirituel, confessionnel, adapté à chaque personne singulière.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Béatrice Birmelet.
Merci beaucoup à vous.
C'était À votre écoute avec Béatrice Birmelet, présidente de la commission de l'aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux. Pour en savoir plus, restez avec nous, bien sûr, tout au long de l'émission, mais vous pouvez également aller sur notre site internet protestantpluriel.org. Tout de suite, une approche plus spirituelle avec le pasteur Victor Adzra, aumônier national des établissements sanitaires et médico-sociaux, qui partage avec nous une réflexion biblique sur le rôle de l'aumônier et la situation des personnes hospitalisées. Méditation. Prenez soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, versets 20 à 27.
Nous vivons dans un monde qui fonctionne avec les repères de l'individualisme en faisant l'éloge de la compétition, de la rentabilité, de l'excellence. Un monde où tout doit être lisse et où ceux qui n'entrent pas dans le moule sont éjectés par le système. Un monde où les fragilités, les vulnérabilités, y compris celles liées à la maladie, au handicap, au grand âge, sont source d'exclusion. Un monde où le sport roi est le football, un jeu d'équipe, mais qui paradoxalement idolâtre l'individu. Or, la création est un tout dont la gestion, dès la Genèse, s'inscrit dans une prise en soin globale confiée à l'être humain. Raison pour laquelle, suite au premier meurtre de la Bible, en Genèse 4, le Créateur demande à Caïn des comptes sur son frère. Où est ton frère? Qu'as-tu fait ton frère? Ces questions font écho au prendre soin les uns des autres, autrement dit, avec un impératif, prenez soin les uns des autres. De ma position, le prendre soin s'illustre bien par le récit de Marc 2, 1 à 12, titré « Les brancardiers de l'amour » par la pasteur Corinne Ackley. Ce passage relate la démarche d'amour de quatre amis qui, pour saisir l'opportunité d'une rencontre salutaire entre leurs copains grabataires et Jésus, furent obligés de décoiffer la maison où se trouvait Jésus. Une vraie démarche de compassion saluée par Jésus qui, à travers une parole d'absolution, remet l'homme couché debout. Ainsi, le prendre soin, c'est d'abord une démarche d'amour, de compassion, de confiance, qui dit à l'autre, tu es précieux. Il ne fait pas doute, à l'exemple du grabataire du récit biblique, que la personne sous le coup de la maladie, le handicap ou le grand âge, est souvent atteinte moralement, psychologiquement et pourquoi pas spirituellement. Se sentant diminuée, dépendante, ne supportant pas de ne plus avoir de place reconnue dans la société, elle se sent dévalorisée, donc de trop. Cet état paralyse sa vie, son espérance, son estime de soi. Dans une telle situation, la prise en soin de la personne est un cheminement fait d'une présence aimante, d'attention, d'écoute et d'accueil, tant de sa personne que de la souffrance qui traverse sa vie. C'est lui offrir, dans cette vallée de sa traversée de solitude, l'opportunité de réaliser qu'elle est un sujet d'amour pouvant s'entendre dire « Tu es une personne, tu as du prix à mes yeux, tu n'es pas de trop, ce qui te touche m'affecte. » Car l'homme, quel qu'il soit, est d'une grande importance aux yeux de Dieu. Quel que puisse être son handicap, sa situation sociale, son parcours de vie, ils ne peuvent ni le défigurer, ni le disqualifier aux yeux de Dieu. C'est ce qui, dans ce récit, met en mouvement les quatre amis. Ils savaient que l'homme qu'ils transportaient valait plus que son apparence et que toute personne souffrante qui se retrouve à côté de sa vie est digne d'y être réintroduite. Le prendre soin s'entend ensuite comme un chemin de rencontre avec le Christ aimant. L'acte d'amour de ces brancardiers a permis une rencontre de l'homme avec le Christ, rencontre qui a eu pour conséquence la guérison de son corps, mais aussi de son âme et de son esprit à travers une parole prononcée, celle proclamant le pardon accordé en Christ. Extraordinaire de réaliser qu'une seule parole puisse briser le cours d'un monde pesant et paralysant. Enfin, que peut signifier le prendre soin dans la réalité d'un aumônier? C'est un chemin de témoignage et d'amour de Dieu à travers une présence, un silence, une parole, un regard, un geste qui font de chaque être humain, bien portant en souffrance, une personne aimée, reconnue, sans condition. Un chemin de compassion qui ne s'inscrit pas totalement dans la référence de l'apôtre Jean à la situation du grand âge, tel qu'il l'écrit en Jean 21, verset 18. « Quand tu seras vieux, tu étendras ta main et un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas. Le chemin du prendre soin en homorie se fait côte à côte, au rythme et à l'écoute de la volonté de la personne accompagnée ou aidée.
C'était Méditation avec Victor Hadzra, aumônier national des établissements sanitaires et médico-sociaux. Et pour cette émission spéciale consacrée aux aumôniers d'hôpitaux, je vous propose d'entrer maintenant dans les coulisses. Deux aumôniers ont accepté de nous parler d'un moment d'accompagnement d'une personne hospitalisée. Et on commence de suite avec le pasteur Lionel Tambon.
Je pense à une dame de 88 ans que je rencontre depuis un moment déjà en gérontologie au CHU. C'est une dame très attachante. Et elle a pris l'habitude de me tutoyer dans les rencontres et elle a pris l'habitude aussi de me demander de commencer par prier pour qu'on ne soit pas dérangé. J'arrive dans le service ce jour-là, je vois l'infirmière, je lui demande comment va cette dame. Elle me dit pas bien du tout, elle a attrapé le Covid, elle est à l'isolement, sa famille lui manque beaucoup et en plus elle vient d'avoir une mauvaise nouvelle concernant un de ses petits-fils. Je m'habille, je mets la charlotte, la blouse, les gants, je toque, j'entre. Elle me voit et elle me dit « Ah, c'est toi ? Je ne sais pas si je vais pouvoir te recevoir aujourd'hui, ça ne va pas du tout. » Et comme pour montrer ou témoigner de l'ambiguïté des sentiments qui l'agitent, elle me montre une chaise et elle me dit « Tiens, assieds-toi là. » Alors je m'assois, elle me parle de sa toux, de sa fatigue, elle me parle de son petit-fils. Et elle enchaîne sur ce sentiment de solitude effroyable qui l'envahit. Elle me dit « j'ai plus goût à rien », elle se sent inutile. Et elle ajoute « je mets à la porte tous ceux qui cherchent à me consoler ». Et en particulier les infirmières ou infirmiers qui cherchent à la consoler. Elle me dit « ça me donne le sentiment que vraiment ils ne me comprennent pas ». Elle ajoute une phrase qui attire vraiment mon attention. Elle dit, tu vois, même toi, tu es gentil, tu viens me voir, mais pour moi, c'est comme si tu n'étais pas là. C'est une phrase forte, hein, même un peu violente à recevoir, mais qui dit bien finalement la vérité de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle est en train de traverser. Elle se sent tellement mal, tellement seule, que même la présence de l'autre ne fait plus présence pour elle. Ça touche ma présence auprès d'elle, mais aussi la présence des infirmiers et infirmières, et même la présence de Dieu, et elle ne veut pas prier aujourd'hui. Alors, je l'écoute, je reformule la violence de ce qu'elle ressent là en ce moment, je ne cherche pas à la consoler, je ne propose pas de prier, c'est pas ce qu'elle veut aujourd'hui, je suis là juste pour écouter ce qu'elle me dit, et au moment où elle me dit ce sentiment très fort de solitude, elle n'est plus tout à fait seule, puisque c'est à quelqu'un qu'elle le dit. Au bout d'un long moment de partage, je lui dis que je ne vais pas tarder à la laisser. Je lui propose de revenir la semaine suivante, ce qu'elle accepte très volontiers. Et au moment où je vais la laisser, elle me dit, presque sur le seuil de la porte, « Ça m'a fait du bien de te parler, c'est le Seigneur qui t'envoie. » Je ne m'attendais pas à cette phrase-là. Pourtant, ce jour-là, on n'a pas parlé de Dieu, on n'a pas prié, on n'a pas ouvert notre Bible, mais juste le fait de l'avoir écoutée, sans chercher à la consoler à peu de frais, finalement, c'est ce qui, pour elle, est venu lui signifier la présence de Dieu à ses côtés.
C'est la fin de ce premier témoignage avec le pasteur Lionel Tambon. Tout de suite, je vous propose d'écouter un deuxième témoignage très touchant et sensible. Tout commence quand la pasteur et aumônier Agnès Vest-Desplanques reçoit un coup de fil du service de néonatologie.
Un jour, je suis appelée par le service de néonatologie. Dans ce service-là, naissent des tout petits bébés. Et le petit bébé dont je vais vous parler s'appelle Léo. Et il est né à 26 semaines. Et il est beaucoup, beaucoup trop petit pour pouvoir vivre. Et l'infirmière me demande juste de passer dans le service. Il y a ses parents qui m'attendent. Ses parents, ils s'appellent Elga et Thibault. Voilà, donc j'arrive dans le service et les parents sont allés prendre un petit café pour se détendre, donc je les attends dans un salon du service. C'est toujours pour moi un moment assez émouvant parce que je ne sais jamais qui je vais rencontrer et qu'est-ce que je vais rencontrer. Les parents arrivent, nous commençons à faire connaissance. La maman, Helga, est protestante et le papa ne l'est pas. Une chose qui me touche beaucoup, c'est que le papa me dit « Moi, je crois pas, mais dans ce moment que nous sommes en train de traverser, je me raccroche à ce que je peux. Et je me raccroche même à la foi de ma femme. » Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Voilà, cette confiance qui me faisait de me partager son intériorité et de me dire en toute transparence ce qu'il habitait. Et voilà que les parents me disent, ben voilà, on aimerait beaucoup que vous fassiez un baptême, que vous baptisiez notre petit Léo avant qu'il parte. C'est sûr qu'il allait mourir parce qu'il n'avait pas de cerveau. Il avait tout simplement pas de cerveau. Donc, il aurait été un légume. Il pouvait pas s'exprimer, il pouvait pas bouger. Et bon, je veux dire, il était inconcevable pour ses parents et aussi pour les soignants de le maintenir en vie. Quelque part, c'était un acharnement thérapeutique. Il n'était tout simplement pas viable. Donc, ils m'ont fait cette demande du baptême. Je leur ai dit pourquoi. Et la maman m'a dit, je veux tout simplement, à travers le baptême, signifier qu'il est entre les bras de Dieu. Voilà. Je trouvais ça extrêmement beau. D'exprimer cette demande de cette façon. Et j'ai repensé au baptême de Jésus. Juste à ce moment-là, au moment où Jésus est baptisé, il y a cette voix qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et je crois que le jour où j'ai baptisé Léo, il y a quelque chose du même ordre qui s'est passé. L'amour de Dieu a été manifesté sur cette vie éphémère. L'affection de Dieu pour cet enfant a été posée. Et ça a été d'un grand réconfort pour les parents. On était réunis autour d'un tout petit lit. Les infirmiers, infirmières, avec beaucoup de délicatesse, avaient même habillé ce tout petit bébé qui tenait dans une main. Imaginez-vous une main. Et j'ai été très très émue de poser ma main trois fois de baptiser au nom du Père, du Fils, de l'Esprit, ce petit Léo. Voilà, j'ai posé ma main sur son front. Et je peux vous dire aussi que j'ai été saisie à ce moment-là d'une grande émotion, voilà, de prononcer le nom du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sur cette vie humaine. Malheureusement, une vie qui n'était que de passage, voilà. Et voilà, bon, c'est quelque chose de très simple, hein, un baptême. C'est un geste qui dit une grâce invisible, qui dit un amour qu'on ne peut pas voir, mais qui peut très modestement être signifié à travers quelques gouttes d'eau déposées sur un front. Voilà, c'est bon. J'ai baptisé Léo avec les parents. Les soignants ont demandé aux parents s'ils pouvaient être là parce que dans ce service, les soignants sont aussi très touchés par tout ce qui arrive aux enfants. Et les parents n'ont pas souhaité la présence des soignants au moment du baptême. Ils voulaient que ça soit un temps très confidentiel, très intime. Voilà, donc j'ai été associée à ce moment si intime. Et le Seigneur, je sais, était vraiment au milieu de nous ce jour-là. Dans cette chambre d'hôpital.
C'est la fin de ce témoignage tout particulier partagé par Agnès Vesdé-Planck. Si vous souhaitez plus d'informations sur le ministère d'Aumônier ou si vous avez des questions, rendez-vous sur notre site protestantpluriel.org. On termine avec les pôles FPF en région et pour cette émission spéciale sur l'aumônerie des hôpitaux, Thierry André reçoit Anthony, aumônier régional des hôpitaux en Île-de-France. Elle partage notamment les raisons qui l'ont poussé à entrer dans cette vocation.
Actualité protestante, au cœur des régions.
Bonjour Anthony.
Bonjour.
Voilà, vous avez un long parcours au service du Seigneur et depuis quelques années, en particulier dans le cadre de l'aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux, et dont vous êtes la référente régionale pour l'Île-de-France. Je voudrais vous poser une première question. En quelques mots, pouvez-vous nous dire ce qui vous a conduit vers le ministère d'aumônier en milieu sanitaire et médico-social?
Oui, bien sûr. Alors, c'est la conjonction de plusieurs points dans mon parcours de vie. Ce n'est pas venu spontanément. Il m'a fallu des années avant de discerner que le chemin de ce ministère, qui est un ministère spécialisé, allait s'inscrire dans ma vocation première, qui était celle d'officier de l'armée du salut, parce que j'ai servi 42 ans dans l'armée du salut comme pasteur. Le premier point fut mes études médicales. Avant de rentrer dans un ministère de service à plein temps, moi j'aimais travailler en milieu hospitalier qui avait beaucoup moins de problèmes qu'actuellement et je m'y sentais à l'aise. Et en tant qu'officier de l'armée du salut, nous nous engageons dans des vœux à vie. C'est ce qu'on appelle notre alliance avec Dieu et cette alliance porte essentiellement sur le texte de Matthieu 25. Accueillir l'étranger, vêtir celui qui est nu, nourrir l'affamé, visiter les prisonniers et les malades. Et ça, c'est une forte interpellation pour mettre le chrétien en action. Et en quelque sorte, si on veut traduire ça dans un langage un peu plus moderne, j'allais dire, c'est se tenir sur les brèches sociales comme témoin de l'amour inconditionnel de Dieu. Nos fractures sociales sont aujourd'hui les mêmes qu'au temps de Jésus. Précarité sociale sous toutes ses formes, fragilité humaine face à la souffrance et aux difficultés de la vie. La vie intérieure qui m'habite, la vie de Dieu qui habite en moi par son esprit, me pousse à être le prochain de la personne en détresse. Cette vie, pour faire plus de vie, elle a à être répandue, partagée, donnée. Et si on veut reprendre une expression biblique ou évangile, de l'évangile, c'est comme un fleuve d'eau vive qui va irriguer, qui va vivifier ce que l'on croyait sec, perdu, stérile, abandonné, sans espoir. Alors l'hôpital, qui est avant tout un lieu de souffrance et de désespérance, devient en partie grâce au ministère de l'aumônier, un lieu d'espérance où je peux répandre cette eau vive sans même ouvrir la bouche, rien que par une présence bienfaisante. Et c'est un lieu de prédilection pour le chrétien, parce que là s'y posent les vraies questions, celles de la vie et de la mort sans faux semblant. Ces questions, on a parfois de la peine même à se les poser en église. Et le rôle de l'aumônier, c'est ce que j'ai découvert au travers de ce ministère, c'est un rôle d'écoute et d'aide à la personne malade à trouver ses propres réponses et son propre chemin. Ce que j'ai découvert dans ce ministère, c'est qu'on approche dans sa rencontre avec l'autre, ce qu'il y a de plus intime en lui et dans lequel peut s'inscrire la trace de Dieu et sa tendresse. Cette rencontre de l'aumônier, moi je la qualifie de sacrée. J'y donne un sens de sacralité, cette rencontre de l'aumônier avec le malade, et je la nomme le sacrement du frère.
Alors, en quoi consiste votre responsabilité d'aumônier régional Île-de-France ?
Oui, alors autrefois on disait aumônier régional, aujourd'hui on dit référent régional. Eh bien, il a administré le service d'aumônerie sanitaire sur toute la région Île-de-France en lien avec les directions d'hôpitaux publics et privés. une grande partie de mon travail qui est consacrée aux relations avec les directions d'hôpitaux. Alors, cela va de l'ouverture d'un poste, puis de la gestion de ce poste ou de ces postes, jusqu'au suivi pastoral des aumôniers. Leur recrutement, leur formation, formation qui est initiale et continue, et c'est la même chose pour les auxiliaires bénévoles, qu'on appelait autrefois les visiteurs. Je dois veiller au développement de l'aumônerie de la Fédération protestante de France. Je dois veiller à sa communication sur toute l'Île-de-France, à ses relations avec toutes les églises protestantes, ainsi que d'établir un lien avec les directions d'hôpital, l'Agence régionale de santé, travailler en réseau avec le monde médical et paramédical, avec les lieux de formation. Alors, les lieux de formation, ce sont les facultés de théologie et les facultés de médecine. On est le lien entre les deux. Et puis aussi les instituts de formation en soins infirmiers. Et puis, la liste est encore longue des tâches. Et heureusement que je suis assistée dans cette multitâche, j'allais dire, par 3 bénévoles qui sont comme moi maintenant retraités, et chacun ayant des compétences précises et assez pointues pour accomplir ce qui nous est demandé. J'ai avec moi un juriste, un médecin, ancien chef de service dans un grand hôpital parisien, et puis une psychoclinicienne.
Alors, vous êtes invitée permanente du comité directeur du pôle FPF Île-de-France. Quelle aide, quel soutien pratique le pôle Île-de-France vous apporte-t-il ?
Le soutien pratique et concret, c'est d'abord être en lien avec les églises de la Fédération protestante de France, et ça va être le lieu où je peux rencontrer soit les présidents régionaux, soit leurs représentants, ce qui me simplifie la tâche plutôt que d'aller tirer les sonnettes et de les rencontrer un à un. À ce niveau, ce qui est concret, c'est que je peux leur apporter une information au fur et à mesure donc du déroulement de l'année. Et puis, autre point important qui est même indispensable, c'est que le pôle va manifester tangiblement son accompagnement du service par une participation budgétaire qui n'est pas négligeable pour nos frais de supervision. Alors, nos aumôniers, en effet, ont une obligation morale et professionnelle d'être suivis par un psychologue, psychoclinicien, et donc le pôle nous aide à ce niveau.
Un grand merci, Anne, pour ces réponses riches et pour votre beau ministère. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci.
C'est la fin d'Actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la FPF, réalisé et présenté par Benjamin Bories. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction, Juliette Angeletti, Gaëtan Lande, Mirana Randria-Malanjara. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org, rubrique Média Podcast. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférées. Pour nous écrire, communication@protestant.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
Actualités protestantes, une production de la Fédération protestante de France.